d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir, réaction en Côte d'Ivoire au décès hier du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Je voudrais m'incliner devant la dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Même si j'étais quelqu'un dont je ne partageais pas la vision, sa mort était une fin assez tragique. Et donc je voudrais exprimer ma compassion à tous ceux qui se reconnaissent en lui ou bien qui sont proches de lui.
Au moins 8 soldats tués lorsque leur véhicule a sauté sur une mine dans la région du lac Tchad. Ici aux États-Unis, la Cour suprême a jugé que le président Donald Trump doit fournir ses déclarations d'impôts à un procureur de New York qui mène une enquête pénale. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Trêve politique en Côte d'Ivoire depuis l'annonce du décès d'Amadou Gon Coulibaly. L'heure est aux hommages. Personnalités politiques, sympathisants, opposants et anonymes sont tous unis autour de ce deuil. Aïcha Diarra.
Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est décédé hier mercredi à l'âge de 61 ans des suites d'un malaise. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. La gravité de sa maladie n'était un secret pour personne, mais beaucoup espéraient le voir survivre et peut-être même aller aux élections d'octobre 2020. D'abord, le président Alassane Ouattara l'a cité comme son jeune frère, son fils et son plus proche collaborateur pendant 30 ans. Pour le président Henri Konan Bédié, tête des listes du PDCI, son décès inattendu ce jour nous afflige profondément. Grand serviteur de l'État, il reste un exemple de loyauté et de fidélité dans le respect de ses convictions politiques. Fin de citation. Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, sur son compte Twitter, présente ses sincères condoléances et dit que tous ces moments douloureux doivent nous amener à méditer la condition humaine et le géopoliticien n'a pas droit de citer en cette circonstance. Fin de citation. Pour Pascal Affine-Guessant, président statuaire du FPI, c'est une grande perte pour la nation ivoirienne. Aïcha Diarra à Bouaké pour VOA Afrique.
Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé hier, devait représenter la majorité au pouvoir à la prochaine présidentielle. Sa disparition soudaine vient rebattre les cartes du jeu politique ivoirien à 3 mois du rendez-vous électoral. Pour Adama Bictogo du RHDP, toutes les options sont sur la table, y compris une nouvelle candidature du président Ouattara. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint ici aux États-Unis Gnaka Logoke.
Je voudrais m'incliner devant la dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Même si j'étais quelqu'un dont je ne partageais pas la vision, sa mort était une fin assez tragique. Et donc, je voudrais exprimer ma compassion à tous ceux qui se reconnaissent en lui ou bien qui sont proches de lui. Oui, sa disparition change un peu le jeu politique parce que M. Ouattara, selon toute vraisemblance, devrait chercher un troisième mandat et cela pourrait amener la Côte d'Ivoire dans une autre crise. Dans la mesure où il a dit que si les gens de sa génération se présentaient, qu'il allait se présenter. Il avait dit cela avant la mort de Gon. Et Bédié a annoncé du PDCI qu'il allait être candidat. Et il semble que c'est vers cela qu'on s'en va.
Vous voulez dire que Ouattara lui-même pourrait décider de se représenter?
Oui, Ouattara pour lui-même pourrait se représenter. Et je crois que ce matin même, cela a été écrit par Reuters. Et c'est ce que nous pensions, c'est ce que nous savions, que même si Gon était candidat, que même si Gon a gagné les élections, Ouattara, d'après ce que certains observateurs disaient, il avait certainement l'intention de faire à la Poutine. Il aurait pu demander, ou il devrait demander à Gon de le nommer ou bien de se faire nommer vice-président. Et donc, voilà, à la mort de Gon, quoi que ce soit, il serait là parce que tout le monde savait que Gon était condamné. La maladie qu'il avait, c'était assez difficile et tout le monde le savait. Donc, voilà ce qui est en train de se présenter au pays. Mais la Constitution, il y aura certainement eu une interprétation assez différente de la Constitution. Certains pensent qu'il ne peut pas être candidat et qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat. Ouattara pense qu'il peut avoir un troisième mandat. Donc, il faut que les Ivoiriens, les Africains et le monde entier s'attendent à voir des situations assez surchauffées en Côte d'Ivoire.
Mais la majorité peut lui trouver un successeur. On parle notamment de Bakayoko.
Oui, Ahmed Bakayoko n'a jamais été le premier choix de Ouattara. Et apparemment, il se pourrait qu'il ne soit pas le choix par défaut. Il y a Patrick Achi qui est un transfuge du PDCI-RDA ou qui a fait de la transhumance politique qui est avec eux. Mais compte tenu du fait que Gon, Soro Guillaume, Adama Big Togo, Amadou Cissé, tous ces gens sont conçus leur pouvoir sur la base de l'idéologie du Nord, dans leur tête, il fallait prendre le pouvoir d'État, pour les intérêts des gens du Nord, contrairement à ce qu'ils font croire aux gens. Et donc, hier, ils se plaignent de l'ivarité alors qu'ils croient à l'achat du Nord. Donc, aller choisir Patrick Hachi, qui pourrait être Premier ministre, pour remplacer Amadou Gon Coulibaly, je crois que cela force un peu le jeu des gens qui ont une conception ethnocentriste du pouvoir. Ahmed Bakako, cela m'étonnerait, mais on ne sait pas, nous sommes en politique, mais selon toute vraisemblance, Alassane Ouattara lui-même pourrait chercher un troisième mandat. Et la Côte d'Ivoire va connaître encore un autre épisode de cette longue crise qui dure depuis plus de 30 ans.
L'éventualité de son frère n'est pas envisageable.
Le frère de M. Ouattara?
C'est ça.
Ça serait difficile parce que c'est un homme de l'ombre, il maîtrise certainement le parti, mais sur la scène nationale ivoirienne, bon, ce serait difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la chose suivante. Nous sommes arrivés à un point où M. Alassane Dramane Ouattara est lâché par une bonne partie de la communauté internationale. Tous ceux qui croyaient qu'il y est et qui ont estimé qu'il fallait bombarder Gbagbo, le déloger, l'amener en prison pour que Ouattara et puis qu'Aïk gouverne tranquillement, aujourd'hui, ils sont tous désillusionnés.
C'était Niaka Logoke, citoyen ivoirien vivant aux États-Unis. Au Tchad, au moins 8 régions du lac. Les précisions de John Hinden.
Selon haut responsable de l'armée tchadienne, sous couvert d'anonymat, un véhicule militaire a sauté sur une mine à Kalam, près de la frontière avec le Nigeria. Une autorité locale a fait état de 9 morts et 11 blessés. Ce bilan a été confirmé par une source sécuritaire au Nigeria qui accuse le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest d'avoir posé l'engin explosif. De leur côté, les sources tchadiennes parlent d'une attaque de Boko Haram. Dans l'explosion de cette mine hier, un commandant de la gendarmerie a été tué selon le haut responsable militaire tchadien. Plus tard dans la journée, des échanges de tirs ont également eu lieu entre des djihadistes et l'armée tchadienne à Bakaram, dans la même région. Pour le moment, aucun bilan n'est disponible.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenté un geste d'apaisement lors d'une allocution télévisée hier soir. Nous reviendrons sur ce dossier en seconde partie d'émission. Direction la République démocratique du Congo, où au moins un manifestant a été tué et plusieurs policiers blessés à Lubumbashi. Selon un premier bilan, des marches interdites lancées à l'appel du parti du président Félix Tshisekedi. Les manifestants protestent contre le choix d'un nouveau président de la CENI. RDC toujours à Goma, dans le Nord Kivu. 8 cas de Covid-19 ont été confirmés à la prison centrale. Les détenus ont été isolés, a annoncé le gouverneur Karli Nzanzu Kazivita. Construite pour 300 prisonniers, la prison centrale abrite à ce jour plus de 1500 personnes. Voilà, oui, le nouveau président Lazarus Chakwera a essuyé aujourd'hui ses premières critiques sur sa gouvernance qu'il avait promis exemplaire. Hier soir, la liste complète des 31 membres de sa première équipe ministérielle a été dévoilée et 70% des ministres sont originaires de la province centrale du président, selon une coalition citoyenne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a jugé qu'un procureur new-yorkais est en droit de réclamer les archives comptables du président américain, y compris ses déclarations d'impôts. Mais elle a bloqué, pour l'instant, leur transfert au Congrès. Le point avec Nanit Talani.
La Cour suprême a d'abord réaffirmé que le président ne jouissait pas d'une immunité absolue. Elle a ensuite déclaré qu'un procureur new-yorkais pouvait lui réclamer des éléments de preuve, en l'occurrence des documents financiers portant sur ses affaires entre 2010 et 2018, détenus par son ancien cabinet comptable Mazars. Selon la justice américaine, aucun citoyen, pas même le président, ne peut éviter d'avoir à produire des documents en cas d'enquête pénale. Le président ne jouit pas d'une immunité absolue face aux injonctions des procureurs de la justice des États. Dans un second arrêt, la Haute Cour a toutefois bloqué dans l'immédiat la transmission de documents comptables réclamés par le Congrès. Elle a renvoyé cette demande devant des tribunaux en demandant aux juges de prendre en compte toute une série de critères pour évaluer si les injonctions parlementaires étaient justifiées. Ces deux décisions ne devraient pas permettre aux Américains d'en savoir plus sur les finances de M. Trump avant la présidentielle du 3 novembre.
Toujours ici aux États-Unis, l'explosion de nouveaux cas de Covid-19 dans le sud et l'ouest du pays menace la reprise économique et a forcé plusieurs États à refermer bars et restaurants. La pandémie du coronavirus qui a désormais atteint les 12 millions de cas dans le monde et fait près de 550 000 morts sur la planète. La seconde ville d'Australie, Melbourne, est rentrée dans sa seconde période de confinement pour 6 semaines. Avec 221 morts en 24 heures, l'Iran a annoncé un nouveau record. L'OMS a annoncé le lancement d'un comité d'évaluation d'experts indépendants sur la gestion de la pandémie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Niger, le gouvernement a adopté une politique minière de 2020 à 2029 pour permettre une meilleure exploitation du secteur qui reste très dominé par l'uranium, l'or et le charbon. Les autorités nigériennes veulent que les mines soient parmi les secteurs qui participent au développement du pays et donc contribuent à la croissance du PIB. En RDC, jusqu'à 3,4 millions de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté à cause du Covid-19. L'économie du pays pâtit de sa dépendance aux exportations de minerais dont les prix ont chuté sur les marchés mondiaux. Outre les économies basées sur les matières premières, celles dépendant du tourisme seront durement touchées, tandis que les économies diversifiées seront plus résilientes. C'est ce que note la Banque africaine de développement. Terminons par la Namibie, où la justice suspend jusqu'au mois prochain la décision du gouvernement de clouer au sol les avions de la compagnie nationale Air Namibia, dont les difficultés financières ont été aggravées par le coronavirus. En début de semaine, le ministère des Transports avait laissé à la société jusqu'au 22 juillet pour fournir la preuve qu'elle a obtenu des fonds requis pour satisfaire à la loi, faute de quoi elle perdrait son autorisation d'opérer. La haute cour de Windhoek juge la mesure illégale et la suspend jusqu'à l'examen du fond du dossier le 3 août 2020.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Sénégal non plus n'ira pas plus loin. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a décidé d'arrêter définitivement tous les championnats. Pas de champion, aucune relégation ni de promotion. En revanche, Teguet FC, leader avant la suspension, représentera le pays en Ligue des champions. Son dauphin Jaraf sera en Coupe de la Confédération CAF. La Fédération sénégalaise de football a aussi décidé d'aider financièrement les clubs. Chaque club de Ligue 1 va recevoir 15 millions de francs CFA et 10 millions pour ceux de Ligue 2. Chaque club de National 1 a 7 millions de francs CFA, ceux de National 2, 3 millions. Les clubs régionaux bénéficieront de 1 million chacun. Pour ce qui est du football féminin, les formations des 2-1 percevront 3 millions chacune et 2 millions pour celles des 2-2. La prochaine saison 2020-2021 sera lancée le 31 octobre. Et puis, les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans vont reprendre sur le continent. C'est ce qu'a annoncé la CAF qui les avait suspendus en mars dernier en raison du coronavirus. Après les préliminaires, le premier tour des éliminatoires se tiendra entre le 3 et le 12 septembre, puis le deuxième tour en octobre et le dernier en novembre. Ces équipes sont encore en lice pour les 4 places de l'Afrique au mondial des moins de 20 ans féminin, prévues au Costa Rica et au Panama. Le tournoi devait avoir lieu en août, mais la FIFA l'a reporté pour la période du 20 janvier au 6 février 2021. Ici aux États-Unis, la MLS a repris hier avec la victoire à l'arraché d'Orlando contre l'Inter Miami de David Beckham 2-1 à huis clos en Floride. Peu avant le coup d'envoi, des dizaines de joueurs de différents clubs se sont alignés autour du terrain pour protester en silence contre le racisme et les violences policières. Les joueurs vêtus de t-shirts noirs et portant des gants noirs ont levé le poing pendant 8 minutes 46 secondes, une référence à la mort de George Floyd à Minneapolis après ce laps de temps. Juste après le coup de sifflet démarrant le match, les joueurs de Miami et d'Orlando se sont mis à genoux, un geste de solidarité avec le mouvement antiraciste Black Lives Matter. Mais les cas de contamination au coronavirus se poursuivent. Quatre nouveaux joueurs du Nashville SC ont été déclarés positifs, selon le site d'information des athlétiques. Cela porte à 9 le nombre de joueurs de l'équipe contaminés par le COVID-19. Les 5 premiers cas ont été confirmés mardi. Lundi, le FC Dallas a dû se retirer de la compétition après l'infection confirmée de 10 de ses joueurs et d'un membre de l'encadrement.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Mali, le discours hier soir du président Ibrahim Boubacar Keïta ne semble pas avoir convaincu l'opposition qui appelle à descendre dans les rues demain pour demander son départ. Dans son troisième discours en quelques semaines, Ibeka a ouvert la voie hier soir à un réexamen d'une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur les résultats des législatives. Il a annoncé aussi le maintien de son premier ministre Boubou Cissé. Baga Sikoura a recueilli la réaction de Nuhum Togo, l'un des leaders du mouvement de contestation.
D'abord, premièrement, nous avons remarqué un président fatigué, soucié, un président qui n'est du tout pas en forme. Deuxième aspect, sur le fond, nous avons remarqué qu'il n'a pas amené d'autres propositions. D'abord, pour ce qu'il a fait, c'est de confirmer son premier ministre face à la nation malienne. Il nous parle de la réconciliation. Mais le nouvel donne, il parle de remembrement de la Cour constitutionnelle et l'arrivée de la délégation de la CEDEAO, ce qui il nous fait croire qu'il faut forcément remembrer la Cour constitutionnelle. En remembrant la Cour constitutionnelle, d'abord, il donne encore une fois de plus la chance à l'Assemblée nationale de rester et qu'après, il fera en sorte de travailler pour que les Maliens se retrouvent. Il nous parle aussi en faisant des bénédictions sur l'arrivée de Soumaïla Cissé bientôt, parce que son bientôt nous attendons depuis quelques jours, mais aujourd'hui il fait des bénédictions pour nous dire que Soumaïla sera là bientôt. Sinon, le Malien lambda pensait qu'il allait quand même donner un discours d'apaisement, un discours qui fera en sorte que les Maliens se retrouvent. Sur l'aspect sécurité, il n'a pas placé un mot, au centre ça ne va pas. La situation devient de plus en plus compliquée. Et dans ces 10 jours, il y a eu plus de 45 morts. Mais le président, nous avons remarqué qu'il ne maîtrise pas franchement la situation.
Alors, donc, au vu de ce discours, est-ce que vous allez donc continuer vos manifestations?
Vous savez, il n'a rien dit pour rassurer le peuple malien, parce que pour le peuple malien, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il faut régler ces problèmes. En termes d'insécurité, en termes aujourd'hui de la gestion, en termes de la gouvernance, en termes d'élections transparentes, en termes de l'organisation des élections futures, en termes même de la gestion et de la gouvernance, il n'a pas pu nous donner des informations. Le peuple malien solidaire pense réellement que, franchement, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Et demain, nous allons sortir pour demander le verdict populaire du peuple malien, c'est-à-dire le peuple a le monopole, c'est le peuple qui donne le pouvoir et c'est le peuple qui récupère son pouvoir. Et le peuple fait récupérer son pouvoir qu'il a donné pour que le Malien puisse avoir la paix.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'une chute du régime peut envoyer un chaos au Mali et peut-être dans la sous-région?
Il ne peut jamais avoir de chaos au Mali. Donc, parce que vous savez, en 1991, c'est qu'on nous a dit, parce que nous sommes des hommes civilisés. Regardez ce qui se passe chez nous, ça ne peut pas se passer dans d'autres pays du monde. Faire sortir des milliers, des millions de personnes et les faire rentrer tranquillement à la maison sans violence, c'est au Mali qu'on voit. Comparé à la France, ce qui se passe avec les Gilets jaunes.
C'était Nuhum Togo, opposant malien à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Le président du Parlement burkinabé propose un report des élections législatives de novembre après une tournée de députés dans les régions les plus touchées par l'insécurité. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité. Abdourahmane Dia a joint à Ouagadougou maître Benewende Sankara, vice-président de l'Assemblée nationale, qui pense qu'il faut tout faire pour respecter le calendrier électoral tout en œuvrant pour la sécurisation des régions touchées par les violences.
Je suis moi-même parlementaire, vice-président de l'Assemblée nationale. Mais c'est une décision très très surprenante parce qu'en réalité, il s'agissait du compte rendu que le président de l'Assemblée nationale devrait faire à la plénière sur ses sorties, les différents constats. Mais personnellement, je ne m'attendais pas à une résolution tendant à recommander le report des élections, puisque nous sommes déjà dans un dialogue politique initié par le chef de l'État, où tous les acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition se sont mis d'accord pour un scrutin à venir qui doit respecter les normes internationales d'élection transparente et libre, et que à ce jour, la CENI, c'est-à-dire la commission électorale, est à pied d'œuvre avec tous les acteurs pour réussir les élections du 22 novembre 2020, date à laquelle le corps électoral est déjà convoqué.
Maître, vous reconnaissez tout de même la menace sécuritaire évoquée dans le rapport du président de l'Assemblée nationale?
Oui, c'est vrai que la CENI a eu l'occasion de faire à la classe politique le point de difficulté, mais le gouvernement est à pied d'œuvre. Et d'ailleurs, la commission électorale le sait très bien, et cela en accord avec les forces de défense et de sécurité, afin de pouvoir sécuriser cette partie donc du Burkina Faso. Et je rappelle que les zones concernées représentent environ 19%, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 80% du territoire burkinabé a déjà été l'objet d'enrôlement où les populations s'attendent à voter. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment l'alibi, le prétexte pour demander le report. Il doit y avoir d'autres mobiles.
D'accord. Pour revenir un peu à cette proposition du président de l'Assemblée nationale, si éventuellement on reportait les législatives, est-ce que vous considérez que c'est on peut juste aller aux élections en tenant la présidentielle sans les législatives?
Vous savez, en matière de sécurité, on a commencé à être attaqué pratiquement il y a 5 ans. Et il me dit que dans un an, la situation sera meilleure.
C'était Maître Beniwende Sankara, vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a jugé qu'un procureur new-yorkais est en droit de réclamer les archives comptables du président américain, y compris ses déclarations d'impôts. Dans un second arrêt, la Haute Cour a bloqué pour l'immédiat la transmission de documents comparables réclamés par le Congrès. Elle a renvoyé cette demande devant les tribunaux en demandant aux juges de prendre en compte une série de critères pour évaluer si les injonctions parlementaires sont justifiées. John Lyndon a joint le professeur de l'université Johns Hopkins, Jean-François Seznec.
Écoutez, si la décision tient, comme vous le dites, c'est très important parce que ça veut dire que l'Attorney General de New York va pouvoir obtenir des documents que personne n'avait pu obtenir auparavant, ses auditeurs. Donc, on aura beaucoup d'informations sur les transactions financières de Donald Trump avant qu'il soit président, bien sûr, mais des transactions très intéressantes, surtout avec la banque Deutsche Bank, et savoir peut-être expliquer pourquoi la banque lui a prêté tant d'argent pour si peu de raisons. D'un autre côté, quand même, il faut faire attention que ce qu'a dit la Cour suprême n'est pas si simple. On n'aura pas forcément ces informations avant les élections, parce que la Cour suprême donne le droit au président de pouvoir ramener le cas en justice à un niveau plus bas. Et ça va prendre encore pas mal de temps.
Sur un autre plan également, cette même Cour suprême n'a pas accédé aux demandes des démocrates qui veulent à tout prix avoir les déclarations de revenus de Donald Trump. Comment analyser cette autre décision?
Écoutez, je crois que la Cour suprême, qui a quand même voté à 7 contre 2, donc il y a pas mal de gens des plutôt pro-libéraux, si vous voulez, qui n'ont pas voté dans le sens que les démocrates auraient aimé, mais ils ont dû penser simplement que c'était une décision trop politique, vraiment, pour pouvoir donner raison aux démocrates, et que les démocrates attaquaient le président plutôt pour des causes politiques que pour des causes financières réelles. Je pense que c'est pour ça que la Cour suprême a fait un jugement d'un côté vis-à-vis de l'Attorney General de New York, qui soit un peu différent de celui de ce qu'a demandé les démocrates à Washington. C'était deux cas différents. Et l'un était basé sur le fait que le président n'est pas au-dessus de la loi. Et c'était celui de l'État de New York, bien sûr. Et ça, la Cour suprême a décidé en grande majorité, hein, 7-2 à nouveau, comme on disait tout à l'heure, que le président n'est pas au-dessus de la loi, alors que du côté démocrate, c'était vraiment vu par les démocrates à New York, enfin les républicains vis-à-vis des démocrates de Washington, montrant que c'était vraiment une affaire politique.
Il est de tradition aux États-Unis que les présidents doivent mettre à la disposition du public leur déclaration d'impôts. Pourquoi Donald Trump est si réticent à cette tradition?
Écoutez, c'est pas vraiment une tradition depuis très longtemps. C'est une tradition que depuis 30 ou 40 ans, pas plus. Hein. C'est pas une obligation du président. Donc, il peut décider de le faire ou pas. Il avait dit qu'il le ferait à un moment, puis il a changé d'avis. J'ai l'impression qu'il ne veut pas donner ses informations financières parce que ce serait assez embarrassant.
Jean-François Seznec, professeur de l'université Johns Hopkins. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le Parti communiste chinois a imposé une législation de sécurité draconienne à Hong Kong. Sous cette nouvelle législation, des dispositions générales et vagues sur la sécession, le terrorisme et la collusion avec des pays étrangers créent de nouveaux crimes passibles de peine allant jusqu'à la prison à vie. Cette situation a déjà un effet intimidant sur le mouvement pro-démocratie. Peu après l'adoption de cette législation, l'activiste Joshua Wong a démissionné du poste de secrétaire général du groupe pro-démocratie Demos Isto et quitter le parti. D'autres membres, y compris Nathan Lowe et Agnès Chow, ont fait de même et le parti a annoncé qu'il va se dissoudre. Plusieurs des manifestations de l'année dernière à Hong Kong auraient été punissables sous la nouvelle législation. Néanmoins, des manifestants sont descendus dans la rue le 1er juillet, 23e anniversaire du transfert à la Chine par le Royaume-Uni du contrôle de Hong Kong. À la mi-journée, la police de Hong Kong a annoncé sa première arrestation sous la nouvelle loi sécuritaire. Un homme tenant une bannière disant simplement « Indépendance de Hong Kong ». Cette loi sécuritaire nouvellement imposée constitue clairement une trahison à l'endroit du peuple de Hong Kong, de même qu'un mépris des engagements internationaux pris par le Parti communiste chinois. Le PCC, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite, avait promis 50 ans de liberté au peuple de Hong Kong sous la déclaration conjointe sino-britannique de 1984. Documents enregistrés par l'ONU et la loi fondamentale, mais ne leur en a donné que 23. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés pendant que Pékin dépouille Hong Kong de son indépendance économique et politique et de sa vitalité. Les États-Unis ont imposé des restrictions de visa aux responsables du Parti communiste chinois et qui ont miné l'autonomie de Hong Kong. En plus, le président Donald Trump est déterminé à éliminer le régime d'exemption accordant à Hong Kong un traitement spécial, mis à part quelques exceptions. Les États-Unis, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo, continueront de se tenir aux côtés du peuple aimant la paix de Hong Kong et de répondre aux attaques contre la liberté d'expression, de la presse, d'assemblée, de même qu'aux atteintes à l'état de droit des libertés qui, jusqu'à présent, ont permis au territoire de se développer. Aujourd'hui est un jour sombre pour Hong Kong et pour les personnes aimant la paix à travers la Chine.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.